Décryptualité, semaine 40. Salut Manu.
Salut Mag.
Salut Luc.
Eh bien, direct au sommaire de la revue de presse.
Plein d'articles super intéressants. On va commencer par celui du Monde Informatique. RTE mise sur l'open source pour gérer les réseaux électriques par Célia Serramour.
Alors, c'est pas juste l'adoption du logiciel libre par une entreprise, c'est un petit peu plus. Parce qu'ils travaillent avec Savoir-Faire Linux, une association, et ils vont essayer de mettre en place pas mal d'outils qui seront réutilisables par d'autres. C'est un des intérêts, c'est on met en commun, donc c'est plutôt sympa. Sachant que c'est un transporteur d'électricité qui est en train de travailler sur tout ça. Plutôt quelque chose d'important.
Westfrance.fr, Bégard, le premier café citoyen de la saison à la MJC, par la rédaction.
Alors c'est dans le cadre d'un infothéma, et effectivement ils mettent en avant le logiciel libre, et plus, c'est plutôt sympa.
Reporter, contre l'obsolescence des ordinateurs des ateliers de bidouille numérique, par Morane Kerinek.
Et oui, là, il y a une nouvelle version de Windows 11 qui sort enfin. Et oui, on l'attendait tous, mais il va falloir mettre à jour vos vieux ordinateurs qui ne seront pas capables de faire tourner la nouvelle version du super logiciel propriétaire privateur de Microsoft. Et à la place, on vous encourage à mettre du logiciel libre. Ça va redonner une deuxième vie, un deuxième souffle à votre vieux matériel poussif. Qui sera très bien, finalement, ça peut tourner super bien avec une bonne Debian des familles.
Ou d'autres distribs, plus compatibles avec les utilisateurs débutants.
Bon, Debian, c'est très bien, ouais. Tu dis ça, mais c'est parce que toi, tu préfères Mint, je le sais.
Alors, peu importe, mais Debian n'est pas une distribution adaptée aux utilisateurs débutants, c'est tout.
Moi, j'aime bien Ubuntu pour débuter. Alors, article suivant, usinedigital.fr. Face à l'omniprésence de Google, l'enseignement supérieur cherche une alternative souveraine, par Alice Vittard.
Et oui, dans l'éducation nationale française, malheureusement avec le Covid, on s'est retrouvé à devoir utiliser beaucoup plus d'informatique, de l'informatique propriétaire notamment, donc du cloud américain, pas mal de ces outils-là qui sentent mauvais. Heureusement, on a des héros Framasoft qui sont arrivés à la rescousse, qui essayent d'aider à mieux travailler avec du logiciel libre. Dans l'éducation, c'était un peu à la base de Framasoft.
Alors, il y a des projets au sein même de l'éducation nationale qui mettent en avant du logiciel libre et qui les utilisent. Mais comme toujours, avec un organisme aussi important, ça va dans les deux sens. Et le logiciel propriétaire trouve des oreilles très complaisantes dans l'éducation nationale en même temps. Donc c'est une grande zone de guerre sur les libertés informatiques.
Enfin, ne confondons pas totalement l'enseignement supérieur et l'éducation nationale. Je vous rappelle qu'eux, ils ont fait passer la priorité au logiciel libre.
Il y a quelques années, oui.
Acteur public, l'État mise sur les communs numériques pour outiller les collectivités, par Émile Marzloff.
Il y a un mouvement en France assez important au niveau des administrations, des institutions, pour mettre en avant de l'open data, donc du partage des données qui sont générées par les citoyens, par la société française en général, et pour faire en sorte qu'on puisse les étudier, les analyser, les réutiliser, et puis utiliser plus de logiciels libres, parce que c'est bien là aussi pour les administrations, pour les collectivités. Donc oui, encore une fois, il faut s'y mettre. Donc il y a des circulaires du Premier ministre qui sont parus et qui mettent ça en avant, donc il y a un travail continu de mise à jour un petit peu de nos habitudes.
Article suivant, mais j'ai pas envie, je vous le fais quand même. Les numériques, Tails choisit Google pour lancer une offre de cloud de confiance, par Patrick Randall.
Bon, l'article restera peut-être pas dans la revue de presse, parce qu'on est dimanche quand on enregistre, et il y a encore une parution qui doit se faire, mais effectivement, il y a des mouvements qui se font sur l'informatique en nuage, et malheureusement, on essaye de rapatrier en Europe et en France nos données. Mais quelque part, on ne se sent pas de le faire juste avec nos compétences. On a, il semblerait, besoin des compétences d'entreprises américaines.
C'est pas on, c'est une entreprise, s'il te plaît, enlève le on.
On, c'est parce que tout ça, c'est pour faire du cloud souverain, notamment, c'est pour aller dans ce sens-là.
Cloud de confiance, qui n'est pas le cloud souverain.
Ah oui,
Non, c'est pas le sujet de ce soir, mais quand même, cloud de confiance avec Google, je comprends pas,
Alors, on avait fait un podcast au début de la saison là-dessus, donc on va pas repartir sur le sujet.
Du coup, dernier article, et aussi sujet de notre soirée, Le Monde FR, devant le Congrès américain, une lanceuse d'alerte compare Facebook à l'industrie du tabac et appelle à sa régulation, par Damien Leloup et Alexandre Picard.
Alors, comment s'appelle cette lanceuse d'alerte?
Alors, France Hogen,
on ne sait pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui travaillait chez Facebook comme responsable de produits. Donc il y a un poste relativement important, c'est stratégiquement une responsabilité élevée. C'est une lanceuse d'alerte, elle témoigne devant le Congrès américain en expliquant ce qu'elle a vu. Elle a travaillé là-bas 2 ans.
Donc elle en arrive assez rapidement à une sorte de point Godwin des comparaisons, c'est-à-dire là, c'est la comparaison avec l'industrie du tabac.
Tu veux dire qu'une fois que t'as fait cette comparaison, le débat est fini, c'est ça? Donc on arrête d'en parler?
Quasiment, c'est quelque chose d'assez ultime derrière, parce qu'il y a beaucoup de morts et qu'on sait que l'industrie du tabac, c'était un sujet, et c'est toujours un sujet, au Congrès comme ailleurs, c'est des entreprises très fortes, puissantes, qui ont payé des parlementaires pendant des années pour ne pas lever de régulation. Bon, ça n'a pas tenu avec le temps, on s'est rendu compte que c'était des meurtriers, hein. Ils ont tué beaucoup de monde. Et les comparer avec ça, bah oui, c'est un peu fort quand même.
Pour moi, la comparaison est assez juste, puisque aujourd'hui, plus personne ne doute du fait que le tabac soit nocif, alors que justement, tout leur travail a été de semer le doute là-dessus pendant des décennies. Et elle est lanceuse d'alerte et dit « Facebook et nombre de réseaux sociaux du genre sont nocifs ». Et aujourd'hui, il y a du doute là-dessus et les GAFAM vont défendre leur steak et dire « Non, non, tout va bien, nous sommes des bienfaiteurs de l'humanité ». Donc pour moi, cette comparaison, elle est très juste. C'est qu'il y a un moment où on devrait arriver à ce point où, effectivement, il n'y a plus de doute sur le fait que les réseaux sociaux, Facebook en premier, sont nocifs.
Elle est juste, elle est visuelle. Moi, je la trouve parfaite. Hein.
Bon, Facebook, c'est nocif en quoi ? Parce que là...
Vu le nombre de personnes qui se suicident, ou qui sont harcelées, ou qui dépriment, ou qui vont acheter n'importe quoi avec Facebook, moi je trouve que c'est assez nocif quand même.
Alors de fait, elle apporte un certain nombre de sujets, puisque Facebook, bon, est une grosse entreprise avec beaucoup de moyens, ils ont fait des études internes qui montraient qu'effectivement ça avait des impacts négatifs, notamment sur les jeunes adolescentes qui n'étaient pas trop bien dans leur corps, ça avait tendance à plutôt augmenter les angoisses. Elle a également remonté le fait que pour que Facebook gagne de l'argent, il faut que les gens... ils retournent encore et encore et encore, ce qu'ils appellent l'engagement, et que ça marche d'autant mieux qu'on leur envoie de la merde.
Donc c'est totalement addictif, donc c'est une drogue, donc c'est comparé au tabac.
Alors moi, ce qui m'avait intéressé, parce que mon côté informaticien et technique, ça parle d'algorithme. Et j'aime bien, là, il y avait quelque chose d'assez fort. Donc si je comprends bien, Facebook, d'après tout ce que j'ai lu moi aussi, n'est pas neutre, hein, contrairement à ce qu'on pourrait espérer. Non, c'est une entreprise qui a fait des choix dans leur manière d'organiser les contenus qui sont hébergés sur leur serveur. Et dans leur choix, bah, y a des algorithmes qui vont remonter ces contenus de certaines manières. Et il semblerait que les algorithmes, effectivement, qui entretiennent le conflit, qui entretiennent les perturbations, les doutes chez les
la
gens...
La colère, etc. Oui.
Exactement, ça crée des émotions fortes, des émotions souvent négatives, et que, bah, effectivement, tout ça, ça pousse à s'engager plus, à rester plus longtemps sur les contenus, à les partager, à redistribuer des pages, regarder ça, dire à sa famille « Attention, regardez, je viens d'apprendre quelque chose d'important ». Oui, il y a un algorithme qui est derrière, et cet algorithme, il n'a pas été trop remis en question jusqu'aux élections présidentielles.
Les dernières, prenez les élections présidentielles américaines, bon, ils l'ont remis en question avant. Là, ils se sont dit « On va un peu calmer le jeu pendant les élections », mais ils l'ont remis en marche juste après, parce que c'est ça qui fait gagner de l'argent. Il y a eu des propositions en interne pour trouver des solutions un peu moins néfastes, mais on leur a dit « Non, 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 ça va faire baisser notre rentabilité ». Ça joue également sur les fake news, et donc on l'a aujourd'hui sur les trucs autour du vaccin et du Covid. Donc c'est pas que la haine, c'est également les fausses informations, etc. Moi, ce que je trouve assez tragique là-dedans, dans ce que cette lanceuse d'alerte met en avant, c'est que la population, les utilisateurs en moyenne, en gros, hein, ils adorent les trucs pourris, en fait. Et donc, on peut avoir cette vision de dire, assez élitiste, de dire « les gens sont des gros nazes qui aiment les trucs pourris ». Donc, on devrait contrôler les gens. Donc, ça va un peu contre les libertés, non ?
Quoi, tu encourages la liberté d'expression et au contraire à pouvoir tout diffuser à n'importe qui ?
Moi, je vois les arguments qu'à l'avance, on voit le merdier que c'est. Et qu'est-ce que tu vas opposer à quelqu'un qui dit « il faut réguler tout ça, il faut empêcher les gens de voir ce qu'ils veulent ».
Alors, j'aimerais bien voir au niveau des dates, quand est-ce qu'ils ont réactivé l'algorithme ? Et notamment par rapport au 6 janvier, où il y a eu une insurrection qu'on a suivie. Et cette insurrection, est-ce qu'elle n'a pas été alimentée justement et notamment par cet algorithme, est-ce que ça peut pas avoir des impacts sur les élections présidentielles françaises, sur des manifestations, sur des mouvements de contestation à droite et à gauche ? Est-ce que ça alimente pas tous ces remue-ménages dans nos sociétés occidentales ?
Nécessairement oui, et on en avait parlé avec Cambridge Analytica, etc. Pour moi, le tableau il est relativement clair, on avait déjà beaucoup d'indices qui allaient dans le sens de ce que cette personne dit. Il faut rappeler qu'il y a des anciens patrons de Facebook, deux qui sont partis en claquant la porte, en disant que Facebook était une horreur et qu'ils laissaient pas leurs gamins y approcher, enfin, avec toutes ces choses voilà, qu'on sait. Aujourd'hui, elle fait fuiter des documents internes qui sont des preuves que Facebook sait et que Facebook fait des choix, qui vont dans un sens, un choix non neutre. Donc oui, bien sûr que ça a des effets. On a également d'autres éléments sur les fake news, sur les vaccins, par exemple. Il y a une ONG britannique qui a remonté que 75% des fake news qu'elle avait listées et pouvaient être remontées à 12 personnes seulement. On sait aussi qu'il y a des usines à trolls, en Russie notamment, aussi dans d'autres pays, et que maintenant tout le monde se met à faire ça, et que du coup il y a une sorte de manipulation possible de l'information, mais en même temps certaines personnes disent que ça n'a pas tant d'influence que ça, donc aujourd'hui on est un petit peu le cul entre deux chaises.
Alors vous parlez Facebook, mais moi j'ai envie de parler de WhatsApp et aussi d'Instagram. Parce que Instagram, ça fait un mal fou aux adolescents.
Oui, bah nous, on est trop loin de tout ça, c'est vrai.
C'est trop vieux, en fait.
Ça. Oui, parce qu'effectivement, ça met en avant des modèles physiques qui sont des modèles un peu irréalistes, si je comprends bien, et que ça peut largement déraper pour des jeunes qui sont en train de chercher une identité, qui cherchent à s'affirmer, oui. à exister, et quand ils se retrouvent confrontés à des modèles un peu impossibles, bah ça a voilà. des conséquences
et
négatives.
Tous les réseaux sociaux sont comme ça. J'avais lu un article où des journalistes avaient créé un profil sur TikTok avec l'identité d'un adolescent de 14 ans, et ils ont mesuré qu'il fallait 8 minutes avant de voir la première publicité pour de la chirurgie esthétique.
Efficacité du réseau voilà. de publicité, ils ont bien repéré tout de suite, il y avait une victime potentielle.
C'est ça. Mais alors ma question sur cette question des libertés, parce que nous, on est là pour les libertés informatiques, qu'est-ce qu'on répond aux gens qui disent « Regardez, c'est néfaste, il ne faut pas que les gens soient libres sur Internet, parce que du coup, ce qu'ils aiment, c'est le caca. »
Alors, est-ce qu'on est vraiment libre quand on va sur ce genre de plateforme-là? Est-ce qu'on n'est pas manipulé par les informations qu'on reçoit, puisqu'on ne les choisit pas vraiment, puisque ça s'affiche sur nos murs? Donc, est-ce que c'est vraiment la liberté d'expression d'aller sur ces plateformes-là? Voilà, moi, ce que je leur répondrais. Et puis, autre chose, mais qui n'a rien à voir avec le numérique, est-ce qu'on a vraiment envie d'enrichir des entreprises qui ne payent pas leurs impôts en France? Mais ça n'a rien à voir avec le numérique, c'est un autre sujet.
Voilà, c'est un autre sujet, mais bon, c'est toujours bon de le rappeler. Alors effectivement, ça n'est pas neutre, et comme tu le dis, ça n'est pas la liberté, puisqu'il y a ce choix d'envoyer des trucs pourris. Si ces trucs ne sont pas envoyés, la vision du monde est un peu plus équilibrée, les gens passent moins de temps sur Facebook, donc sur les réseaux sociaux, donc font des choses plus intéressantes, plus enrichissantes, donc ça prouve bien effectivement que la manipulation marche, et que c'est bien une absence de liberté. Oui.
Et en plus, ils ont tous été libérés pendant 7 heures dernièrement, puisque le réseau est tombé.
Le réseau Facebook, oui, effectivement, 7 heures d'absence, de blackout, où des milliers, des millions, peut-être des milliards de personnes sur la planète se retrouvaient sans contact. Il n'y avait plus d'Internet quasiment pour eux.
Voilà, ça c'est le truc navrant qu'on a lu à droite à gauche. Hein, c'est les gens qui ont reporté qu'on leur a dit « Internet ne marche plus », ce qui en dit long sur la prévalence de Facebook chez certaines personnes pour qui c'est Internet. Pour eux, tout est cassé.
Moi, j'ai vécu des émotions contradictoires en tant qu'informaticien. J'ai vécu ce qu'on appelle, alors, si je comprends bien, c'est le « Schadenfreude ». C'est un concept allemand, en gros, on est content de ne pas subir le malheur d'un autre. Et donc je m'imaginais à la place des informaticiens de Facebook, et notamment de celui qui avait mis en place les nouvelles règles de routage ou de DNS, parce que je connais pas le détail exact, mais en gros, ce gars-là, en appuyant sur une touche, il a mis tout Facebook hors d'Internet, donc les serveurs étaient toujours là, mais ils étaient plus accessibles, on pouvait plus aller à l'adresse concernée, et ça a eu des impacts sur toute l'entreprise, les employés ne pouvaient plus travailler, les bureaux étaient fermés, les badges ne fonctionnaient plus, et donc les gars qui savaient comment réparer ce problème-là n'avaient pas accès aux outils et aux serveurs qu'ils allaient devoir réparer.
Attends, tu veux dire que pour rentrer travailler dans l'entreprise, il fallait badger, et que si Facebook est tombé, le badge ne fonctionne plus ?
Et oui, et on sait aussi que Facebook s'est utilisé pour plein de cas d'authentification. Vous savez, quand vous allez sur un site web et on vous dit vous authentifier avec Facebook ou Google, en général, c'est les deux choix les plus importants, et que vous choisissez Facebook et qu'ensuite Facebook n'est plus actif, vous pouvez plus vous authentifier avec Facebook, forcément.
Donc les conséquences sont dramatiques. Moi, je trouve ça assez rigolo. Ça démontre que ces énormes boîtes avec des gens hyper compétents, beaucoup d'argent, peuvent se chier dessus avec sur une panne lamentable qui dure 7 heures. Comme tu l'expliquais, c'est des cascades de problèmes qui sont arrivés les uns derrière les autres jusqu'à une situation de blocage. Donc, quand on vous dit « Non, mais c'est des professionnels, etc. », voilà.
Vu l'argent qui est en jeu, vu les impacts que ça a, il a perdu de l'argent, Zuckerberg, sur ce coup-là. Mais effectivement, non, n'importe qui peut faire une erreur. Et les réseaux, le DNS, c'est un point central. Il est facile, comparativement en tout cas, d'utiliser pour tout casser.
Voilà, donc ce qui démontre encore une fois que les trucs, management du risque, les démarches qualité, tous ces trucs, je ne doute pas que Facebook soit super fort là-dedans. Il y a quand même toujours des grosses failles, quoi.
Alors... tout ça, ça rajoute à la longue liste des controverses qui tournent autour de Facebook.
Que je vous laisse regarder sur Wikipédia Facebook Critique.
Oui, c'est une page qui est juste énorme avec de très nombreuses références par dizaines. Et ça parle de tout, de guerre, de génocide, de problèmes d'obésité. Enfin, il y a vraiment de tout. Mais Facebook est concerné par tous ces problèmes-là. Le Brexit, on peut le remettre sur le dos. Enfin, ils sont remplis de problèmes et ils vont pas s'arrêter parce que là... voilà. Le blackout n'a duré que 7 heures.
Ouais. Nous, ce qu'on peut recommander, c'est d'aller sur des réseaux Internet avec des modérateurs humains, des gens qu'on peut connaître, des vraies communautés.
Et dont les serveurs sont décentralisés, il y a des petits nœuds partout. Donc voilà. Même s'il y en a un qui tombe, c'est pas grave, les autres fonctionnent encore.
Tout à fait. Et même si le modérateur n'est jamais parfait, qu'il y a de l'arbitraire, que les gens se fâchent, au moins c'est des vrais humains, c'est des gens avec qui on peut discuter. Si on est fâché, on peut aller ailleurs. L'idée, c'est qu'il y en ait plein. Et c'est comme ça qu'on peut avoir une vie sur Internet qui soit vraiment humaine et enrichissante, et pas un système fait pour tirer un max de pognon des gens en exploitant leurs faiblesses.
Ou alors, vous pouvez ne pas aller sur Internet et ouvrir un livre.
Voilà. Bon, on espère que notre semaine à venir sera meilleure que la semaine passée de Facebook.
Oui, ça devrait. Oui, on a quand même un peu pitié pour le gars qui a mis ça en place, hein, forcément.
Pour des gars.
Et on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Salut.